peut-être 25 ans, plus 30 ans. Voilà, 35 peut-être. Et moi, je les ai connus juste un peu plus tard. Donc, il y avait France Louange pour les plus anciens. Sinon, vous cherchez dans les informations. Il y avait des grandes conventions à l'époque. Georges, tu as connu ça. Nous aussi, je pense que toi, tu as assisté aussi. Donc, c'était quelque chose de très nouveau hein, en France, on peut dire, hein, nouveau. Puissant, percutant, les gens venaient de partout. Il y avait des gens qui étaient heureux et puis d'autres, ceux qui étaient très opposants et qui cassaient Robert, voilà, notre ami Robert, voilà, parce que ça, c'est comme ça, l'œuvre de Dieu, vous voyez. Donc, voilà, et puis ensuite, il y avait un moment, donc, et bien, donc c'est Christ qui venait avec toute une équipe d'Angleterre, d'accord. Et avec Robert, ils ont lancé tout ce travail France Louange à l'époque, d'accord. Ça a duré quelques années, vous êtes monté à 2000, je pense, pardon, 3000, jusqu'à 3000, donc les gens qui venaient de partout. Donc c'était Voiron, c'était Mâcon, je pense, Villefranche, un peu tout ça, d'accord. Ça a duré que... Et ça a apporté vraiment quelque chose de nouveau en France, hein, parce que les gens venaient de partout, et puis c'était c'est comme si une partie de France a été bouleversée quelque part, révolutionnée par la louange. Il y a eu les débuts de la restauration de la louange en France. Est-ce que je m'exprime bien? D'accord. Et donc, Virginie, elle était petite, je pense. Nous avons assisté, voilà, une ou deux fois là-bas aussi. C'est là que j'ai connu Chris et Robert. Et puis donc, après, donc, Virginie, elle est partie faire la formation en Angleterre avec Chris, donc avec Dorothée à l'époque et encore quelqu'un. Et même nous, on a à l'époque, on a pris vraiment le virage. Mais les virages comme ça à 90 degrés, puis ça m'a coûté très cher, très, 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 très cher. Voilà, j'ai perdu des amis parce que c'est le monde, etc., etc. Ce que vous vivez là, nous, on ne pouvait pas faire à l'époque. Vous voyez, donc, ce renouveau, la restauration de la louange est arrivée donc partiellement en France, et puis ça continue comme ça. Donc, Virginie, elle a fait la formation là-bas. Ensuite, ça s'est arrêté. Il y a eu la coupure naturelle entre Chris et la France. Hein, voilà, même si nous, on peut discuter un peu plus que ça. Voilà, il y a eu cette coupure, on va dire, naturelle entre Chris et donc la France. Et puis donc, Virginie, après, elle me cassait les oreilles tout le temps en disant Chris, Chris, Chris. Et elle a été voir à nouveau, elle a été fait à nouveau une formation, hein, quelques jours, à Lincoln en Angleterre. Georges, tu ne traduis pas encore? Tu n'as pas compris qu'il faut traduire, non? Tu comprends? D'accord, je pensais que tu n'es pas assez créatif. Voilà, donc ça fait 15 ans hein, à peu près que tu m'as toujours parlé. Et puis, au début, je croyais, et puis après, je doutais. Je me suis dit, c'est fini pour Chris. Mais c'était son désir. Elle avait la conviction. Et depuis 15 ans, c'est pas juste 2 ans. Voilà, que c'est pas parce que c'est pas une vision depuis 2-3 ans. Mais depuis 15 ans, hein, facilement, hein, voilà, que tu voulais et que tu m'as parlé. Et puis à la fin, j'ai commencé à douter. C'est pour ça que quelquefois, elle me reproche en disant, t'as douté, tu m'as pas assez soutenu. J'étais là derrière, voilà. Et puis elle arrivait, c'est elle qui a su convaincre Chris, qui est arrivé ici. Il nous a rencontrés, quelques pasteurs avant, et il voulait vraiment voir si on est là, si on est gentil. Mais ça s'est tellement bien passé. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on a démarré quelque chose que Virginie avait déjà à cœur il y a 15 ans. D'accord? Donc, je suis pas là pour prêcher, mais on m'a demandé de faire cette introduction. Donc, Chris et Robert se connaissent depuis déjà 25-30 ans. D'accord? Il y a eu tout un travail. Et puis après cette coupure de quelques années, une douzaine d'années, je pense, 15 ans, vous vous êtes pas rencontrés? Enfin, moi aussi, hein. Et puis tout à coup, Dieu a fait en sorte que nous nous sommes rencontrés, Chris et Robert, 15 ans après, pour la première fois hier soir. Parce qu'avec Chris, moi, je me suis retrouvé déjà il y a 3 ans. Hein? Mais avec Robert, chaque fois Chris venait à la maison, et la première chose, et Robert, ça va Robert, t'as des contacts avec Robert? Il me cassait les pieds avec son Robert. Et puis voilà, donc on s'est téléphoné. Et puis deux hommes de Dieu remarquables, différents, complémentaires, qui se retrouvent ensemble. Et encore la vision, et encore le cœur pour la France a besoin. Et moi, je suis, pour moi, c'est un privilège, c'est un grand privilège de faire partie de amis comme ça, d'un club d'amis. Voilà, on n'est pas la même fédération, rien du tout. Mais c'est le cœur, c'est les amis qui se retrouvent, qui sont prêts à donner leur vie pour Jésus. Et la dernière chose, vous savez, quand j'ai eu mon problème du cœur et tout ça, j'ai eu une vision, et dans cette vision, Dieu m'a parlé pour me dire, bon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas sacrifier cette jeunesse-là? Cette jeunesse, c'est vous, et puis d'autres, ceux qui ont déjà fait la formation, et puis d'autres églises, il y a des belles choses qui se passent. Hein, vous êtes juste une partie de ce que nous sommes en train de vivre au sein de UAPM, donc ensemble dans la mission, ensemble dans la mission apostolique, oui, Emma. Donc voilà, moi je suis sorti d'une institution parce que j'ai dit non, je ne vais pas sacrifier cette jeunesse et cette vision à une institution, mais je t'obéis, on y va. Et voilà, on est là. Et quand je vois ces jeunes-là qui se déchaînent pour Dieu, je n'ai pas pu faire moi la même chose quand j'étais jeune. Si je faisais ça, c'était dans le monde. J'étais païen. Et vous pouvez vous déchaîner pour Dieu. Et ça, c'est beau. Mais c'est aussi grâce à tous ces hommes de Dieu qui ont ouvert la porte, qui ont brisé les traditions, les obstacles, etc. Les traditions. Et vraiment, c'est une très belle chose. Il y a quelque chose qui se passe. Formidable, exceptionnel. Même là, pour ce deuxième cycle de formation, j'ai dit à Virginie, bon, t'auras assez de personnes. Et elle m'a dit, t'as pas la foi, soutiens-moi. Et puis voilà, il y a une bonne équipe et c'est formidable. Voilà, je ne vais pas continuer plus, mais voilà. Si on peut vraiment, vraiment encore applaudir Madame Boater, qui est là pour la première fois chez nous, avec Chris. Voilà. Et puis Robert et Colette, on se parle par téléphone. Il y a quelque chose qui se passe entre nous et l'objectif c'est libérer l'héritage pour la génération après nous. C'est ça notre objectif maintenant. Sans oublier les gens de notre génération. Sans oublier. Chris, je te laisse.
Antoine, you are a hero, truly. That was just an introduction. You should hear him preach. He is exceptional. But this is for Robert, my friend. C'est suffit. D'accord. Merci.
Peut-être que certains ont l'impression qu'on a fait une sortie de la maison de retraite. Ils ont fait un voyage organisé et on est déjà 3 inscrits. Je voulais pour son anniversaire offrir un déambulateur. Bon, ok. Moi, je voudrais juste, moi, honnêtement, avant de commencer, j'aimerais vous dire une chose. Pour moi, c'est un moment tellement important que je suis en train de vivre. Parce que comme cela vous a été dit, ça fait plus de 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Et vous savez, je fais partie de la génération, un peu la génération des orphelins. On n'a pas eu de père. Et il y a quelque temps, je réfléchissais en me disant, quels sont les hommes qui m'ont impacté? Alors j'avais beau faire le tour, et je me suis dit, ben, tout compte fait, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un qui a impacté ma vie, qui m'a donné une compréhension nouvelle, qui m'a fait saisir des choses que je n'avais pas saisies, qui a bouleversé ma vie, qui a même donné un tournant à 90 degrés, ou 120 degrés, je ne sais pas, et c'est Chris. Et je peux vous dire que ça fait partie des choses où, régulièrement avec Colette, mon épouse, avec d'autres, même si on ne se voyait pas, je le dis parce que c'est vrai, pour moi, Chris est certainement l'homme qui a impacté ma vie. Et je vous souhaite vraiment de trouver, de rencontrer des hommes et des femmes qui peuvent vraiment impacter votre vie. C'est tellement important, tellement important. Ce qui fait que pour moi aujourd'hui, c'est... Oh, j'ai presque envie de m'asseoir et puis de dire... Et puis c'est bon. Et en plus, tu as la gentillesse de me laisser la parole, le micro. Ce qui veut dire qu'au bout de 15 ans, il n'a pas enlevé sa confiance. Et ça me fait encore du bien. Et je veux dire que, tout compte fait, rien n'est changé. Rien n'est changé, même si le temps, parfois, nous a changé un tout petit peu. Enfin, certains plus que d'autres. Alors, c'est vrai que la louange, l'adoration, depuis que j'ai rencontré Christ, ça a signifié tellement autre chose que ce que cela pouvait signifier il y a 40 ans. Il y a 40 ans, on chantait des cantiques. Et puis on est rentré après dans la louange, dans l'adoration. Mais même quand on parle de louange, d'adoration, je répète régulièrement que le mot n'est pas la chose. C'est pas parce que je dis « je te glorifie », je peux même le répéter 10 fois, mais c'est pas pour ça que je le glorifie. Le mot n'est pas la chose. « Seigneur, je te loue !» Pourtant, j'ai exprimé, mais ce n'est pas pour ça que j'ai loué Dieu. Et alors, quand Chris m'a fait savoir qu'il me laissait quelques instants pour partager avec vous, il m'a dit aussi, essaye de nous parler du défi que nous avons en France pour les temps à venir. Que les adorateurs, que les louangeurs, que les créateurs, quels défis doivent-ils relever? Je me suis dit, mais il y a tellement de défis à relever. Et puis tout compte fait, en réfléchissant bien, je dis, mais le problème, c'est que très souvent, dans les églises que je visite, c'est pas les louangeurs et les adorateurs qui doivent relever des défis. Parce qu'ils ne font que ce qu'on leur permet de faire. Et que tout un chacun peut être dans la créativité à partir du moment où on lui en donne l'opportunité et les moyens. Et donc le défi, me semble-t-il, c'est de prier pour que la gente pastorale puisse ouvrir les portes, comprendre ce que veut dire la louange, comprendre ce que veut dire l'adoration, comprendre ce que veut dire la créativité dans l'Église, et puis de donner les moyens et de donner l'opportunité. Parce que tout le monde, tous, nous pouvons créer, nous pouvons apporter des choses si on nous en donne les moyens et si on nous en donne l'opportunité. Et puis j'ai eu à cœur, à un moment donné, de me dire, mais il faut que je vais leur parler peut-être sur la génération Z. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la génération Z, mais la génération Z, vous savez, on parle de génération. Il y a eu les baby-boomers. Alors, moi, je fais partie des baby-boomers. Après, on a parlé de génération X, Y. Et puis aujourd'hui, on parle de la génération Z. La génération Z, ce sont ceux qui ont moins de 25 ans. Et l'intérêt, c'est de savoir à quelle génération on parle. Jésus savait très bien à quelle génération il parlait. Régulièrement, il disait « génération méchante, perverse ». Bon, allez, c'était bâclé. Au moins, on savait à qui on avait affaire. Mais c'est important, quand on s'adresse à une génération, savoir à qui on s'adresse. Et puis je me suis dit, mais si je commence ce sujet-là, je ne vais pas avoir le temps de le terminer en deux sessions. Donc je me suis reposé la question en disant, mais alors, quel est notre défi? Quel est votre défi? Quel est mon défi? Et comme je vous le disais, j'ai le privilège de voyager pas mal, beaucoup, en France et à l'étranger, et puis d'écouter, de voir des groupes de louanges. Il y a des moments où j'ai l'impression que ce n'est pas toujours simple et que ce n'est pas toujours facile. Parce qu'on est dans un temps où on est dans l'extériorité. C'est-à-dire on est dans un temps où on est sous les projecteurs. Demander à un groupe de monter sur scène, on ne voit qu'eux, c'est des musiciens. Il y a ce qu'ils peuvent apporter sur le plan du chant, de la musique, de la création. Mais de temps en temps, quand j'écoute, il y a une chose qui me manque. Il y a une chose qui me manque. Parce qu'on est dans les temps où, on est dans une génération où on peut voir toutes sortes de choses sur YouTube et autres. On est sur le star system, parfois les jeunes, je ne dis pas ici, mais le star system où certains sont attirés par une certaine popularité, on met les projecteurs, certains ne veulent plus même être des artistes, je parle dans le monde, ils ne veulent plus être des artistes, ils veulent être des stars. Je dis, où est le défi là? Où est le défi? Et j'aurais partagé avec vous, pendant quelques instants, la nécessité absolue. Et là, ce n'est plus une question de génération. Là, ce n'est plus une question de ceux qui ont un certain vécu, une certaine expérience. Ça, c'est quelque chose qui touche chacun d'entre nous. Et ça touche, je vais même vous dire une chose, ça touche aussi les pasteurs. Parce que vous savez, les pasteurs, ils sont dans la même situation. Ils montent sur l'estrade, on met les projecteurs, et j'assiste aussi à des choses étonnantes. J'assiste aujourd'hui à la starisation, même des pasteurs. S'il y a un tel qui vient, alors là, c'est la star. C'est la star du moment. Bon, ça ne dure pas, mais c'est la star du moment. Et dites-nous où il est, on va aller là-bas où il est. Moi, je suis un petit peu gêné avec tout ça. Je suis gêné parce que il y a quelque chose qui me manque. On fait croire parfois, dans certains endroits, pas ici, mais ailleurs, que quand la star vient, il suffit simplement de dire, allez, venez tous devant et la star va vous toucher. Et quand elle va vous toucher, votre vie va être complètement transformée. mensonge, mensonge et mensonge. Ça, c'est de la magie. Parce que par expérience, on sait que on a besoin de rentrer dans un processus. Et que le processus ne se fait pas en quelques secondes, mais on a besoin de temps. On prend du temps. On prend du temps devant Dieu. Et dans la vie, il n'y a pas des choses qui se font en deux secondes. Moi, j'ai souvent vu qu'il y avait des choses qui se prenaient un an, deux ans. Je ne veux pas vous décourager, mais des fois, il y a des choses, même il faut 10 ans. Et il y a des choses, même il faut toute une vie. Et je sais que nous sommes dans une génération où on claque des doigts et on l'a. C'est la génération, vous savez, Internet. J'ai besoin de savoir une chose, cling, et je l'ai. Et on pense que cling dans une réunion, et on l'a. Et moi, je n'ai pas envie de jouer à Kling, je n'ai pas envie de jouer à la star, ça ne m'intéresse pas. J'ai simplement envie de vous dire, il y a une chose essentielle, essentielle. Tu peux chanter, tu peux louer Dieu, tu peux jouer d'un instrument, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux prêcher même. Vous voulez, juste entre nous, mais ça, vous ne le répétez pas. Vous pouvez apprendre à tout le monde, je peux apprendre à n'importe qui à prêcher. Je peux même apprendre à une chèvre. Faites-moi venir une chèvre, je lui apprends à prêcher. Mais il y a une chose dont on a besoin, c'est d'avoir une intériorité. Et ma question aujourd'hui, c'est quelle est votre mesure d'intériorité ? On me dit, oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce terme-là ? C'est pas, nous, on n'emploie pas trop ce terme-là, c'est pas un terme habituel. Vous voyez, c'est ça qui est très intéressant, c'est que, par exemple, dans certains... C'est pas dans le milieu évangélique, c'est vrai. Hein, dans le milieu évangélique, on ne parle pas d'intériorité. Dans un autre milieu, par exemple, dans le milieu catholique, on emploie le terme intériorité. Et le mot intériorité est très significatif, mais chez nous, c'est peut-être pas un mot que l'on emploie. Et pourtant, j'aimerais partager avec vous pour vous montrer qu'il y a quelque chose là de très, très biblique. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une nouvelle mode, c'est quelque chose de très biblique. Je ne sais pas quelle est votre prière de tous les jours. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu ? Moi, j'ai besoin d'entendre sa voix, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de vraiment comprendre qui il est. Et je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Mais il y a des moments où je me suis trouvé déstabilisé en cherchant qui est Dieu. Complètement déstabilisé. Pourquoi ? Seigneur, j'ai besoin de comprendre. Et alors tout d'un coup, je commence à réaliser que, oui, Dieu est grand. Voyons, ça on le chante, on le dit, on le sait. Mais Dieu est grand, c'était... Alors, Seigneur, tu es grand. Oui, alors, et je commence à... Seigneur, tu es esprit. Ouh. Vous savez, je ne sais pas comment vous faites, mais moi je m'arrête des fois sur un mot. Tu es esprit. J'essaye de me représenter, tu es esprit. C'est déjà pas simple. Mais Seigneur, tu es esprit et tu es omniprésent. Ouh là 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 là, sur quoi je parle ? Parce que tu es omniprésent, Tu es là, oui, tu es dans la ville, là. Oui, non, tu remplis la France. Oui, non, mais tu remplis le monde. Oui, non, mais d'accord, mais tu remplis l'univers. Et là, je suis dans quelque chose qui me dépasse, parce que Dieu est trop grand pour moi. Je ne sais pas comment vous faites, vous, mais moi, quand je commence à penser à ça, je dis, mais Seigneur, je vais où, là? Et je suis parfois déstabilisé avec ça. Seigneur, j'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de te connaître. Et alors, le drame, c'est que si je commence à me faire une représentation, c'est cette représentation-là qui va me barrer l'accès à Dieu. Parce que toute représentation de Dieu devient une idole. Seigneur, je peux même pas réfléchir à me représenter Dieu. Oh. Et pourtant, je veux te connaître. Et pourtant, je veux connaître, comme dit le texte, et on va y revenir, je veux connaître, j'ai besoin d'avoir la révélation de ce que sont les profondeurs de l'esprit. Et je crie, et à ce moment-là, je dis, Seigneur, mais que ton règne vienne! Que ton règne vienne! Et c'est ma prière, Seigneur, mais je veux voir ton royaume venir! Et vous savez ce que le Seigneur peut nous répondre à ce moment-là? Il va encore nous déstabiliser encore davantage. Parce qu'il dit, et c'est Jésus qui dit ça, si on vous dit le royaume, il est ici ou il est là, non, ne les croyez pas. Parce que le royaume de Dieu, il est là. Ouh. Ah, ouh, attends. Attends, Seigneur. Attends. Attends. Moi, je te cherchais de partout. Tu es esprit? Tu es omniprésent? Omnipotent? Je suis toujours en train de te supplier, Seigneur. Viens, viens. D'ailleurs, on chante continuellement toutes sortes de chants. Viens, Saint-Esprit. Non. S'il y a un sujet que j'aime ces dernières années, ça fait plus de 10 ans que je ne fais qu'une seule chose, c'est de prêcher sur le royaume de Dieu. Je ne peux pas prêcher sur autre chose que sur le royaume de Dieu. C'est mon thème, c'est mon obsession. Vous avez devant vous quelqu'un d'obsédé. Et toi, Seigneur, tu me dis que ton royaume, il est en moi. Oh. Oh. Je vous assure qu'il y a des moments... Il y a des fulgurances qui nous saisissent de l'Esprit de Dieu et qui nous rappellent qu'il est en nous. Seulement, la question, c'est justement d'aller trouver... Vous me suivez toujours? C'est bon? C'est d'aller trouver... ce royaume de Dieu, ce règne de Dieu. Vous savez que le mot royaume de Dieu, ça pourrait se traduire par c'est le règne actif de Dieu, le règne dynamique de Dieu, c'est la manifestation de sa gloire. Il l'a placé en nous, à l'intérieur de nous. Et c'est là où on a besoin de comprendre, et c'est là où je veux simplement vous introduire dans quelque chose qui me semble tellement essentiel. Si je ne suis pas conscient de cette intériorité-là, je serai continuellement dans l'extériorité. Et que c'est très intéressant de découvrir dans l'Évangile qu'il y a, et Jésus en parle régulièrement, il y a les gens du dehors, si vous relisez l'Évangile, j'ai pas le temps de vous donner tous les textes. Mais il y a les gens du dehors et il y a les gens du dedans. Il y a les gens de l'intériorité, les gens de l'extériorité. Certains ont pensé que parfois, celui qui est dehors, c'est celui qui est perdu, c'est celui qui est condamné. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des personnes qui se disent être des chrétiens et qui sont dehors. Et que être dehors, ça devient une véritable infirmité parce qu'on ne peut vivre que dehors, avec l'extérieur, avec ce que l'on voit, avec ce que l'on entend, Alors que nous avons besoin de vivre dans cette intériorité-là. Et que pour vivre, pour rejoindre le Saint-Esprit, pour rejoindre le royaume de Dieu qui est à l'intérieur, on a besoin de prendre du temps pour vivre cette intériorité-là. Je peux chanter, je peux jouer de la musique, je fais du bruit. Mais si je n'ai pas cette intériorité, c'est de la chanson, c'est de la musique. Regardez ce qu'il est écrit avec Paul. Il dit ce que les yeux n'ont point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui est monté au cœur de l'homme, qu'on n'a pas compris. Ça nous a été révélé par le Saint-Esprit. Et on a besoin, je dis cela et j'insiste, nous avons besoin de vivre la révélation du Saint-Esprit à l'intérieur, dans cette intériorité-là. Il y a quelque temps de ça, pourtant je crois que j'ai prêché combien de fois sur l'amour inconditionnel de Dieu. Je sais prêcher sur l'amour inconditionnel de Dieu. Et je suis même très bon pour faire ça. Mais ce n'est pas pour ça que j'avais compris ce que voulait dire l'amour inconditionnel. Et un beau jour, j'étais en Corse et j'arrive chez des amis et je devais faire les réunions et je leur dis oh, « Je vais rester dans mon petit appartement là, et, je vous rejoins dans un moment. » Et dans ma chambre, j'ai commencé à louer Dieu, mais pas plus, pas moins qu'avant, naturellement, normalement, sans faire… Et tout d'un coup… Et quand je vous le raconte, je commence à trembler. Mais tout d'un coup, dans la pièce, amour était là. Des fois, Dieu se manifeste, c'est Père qui est là. C'est un des visages de Dieu. Jésus est venu pour révéler le Père. C'est-à-dire, il est venu pour révéler que un des visages de Dieu, c'est Père. Mais Jean nous dit, Dieu est Père, mais il est aussi amour. Et amour était là. Et je peux vous dire que amour était là. J'ai rien vu. J'ai rien entendu. Et amour a commencé à me parler. Et je n'ai pas entendu de parole. J'ai simplement senti des flèches, des paroles qui étaient comme des flèches qui transperçaient mon corps. Et chaque fois que quelque chose transperçait mon corps, j'entendais la parole. Mais je n'entendais pas. Mais j'entendais. Mais je n'ai pas entendu. Mais ça transperçait tout mon corps. Et Dieu m'a parlé sur... Amour m'a parlé sur amour inconditionnel. Et j'ai commencé à pleurer. Et ça a duré, et ça a duré. Je ne pouvais faire qu'une chose, parce que chaque fois que j'entendais, c'était presque plus insupportable que ce que j'avais entendu 2 secondes avant. Et à partir de là, j'ai commencé à comprendre ce que voulait dire amour inconditionnel, parce que Dieu nous a donné la révélation par le Saint-Esprit. Et là, on a besoin de, mes amis, je peux chanter pendant des mois ou des années sur l'amour inconditionnel de Dieu sans avoir compris ce que voulait dire amour inconditionnel. Et quand amour te parle, il y a une révélation. Il y a quelque chose qui te saisit. Il y a quelque chose qui vient te bousculer, qui te transforme. Il y a quelque chose qui te transperce. J'étais transpercé. Quelque temps auparavant, un chrétien dans cette église, dans cette même église, me disait que lorsque c'était un légionnaire, vous savez, les légionnaires, et quand il s'est converti, il m'a dit, Dieu m'a saisi par une puissance de son amour, mais c'était insupportable. Insupportable. Il m'a dit, ça a duré des semaines, et au bout de plusieurs semaines, je lui ai dit, arrête, je ne peux plus. Quand il m'avait dit ça, je lui ai dit, ah, quand même, c'est dommage de dire ça, arrête, je ne peux plus. Mais là, j'étais en train de dire, je ne peux plus, c'est trop fort. C'est trop fort, c'est trop violent. Nous avons besoin d'entrer dans cette intériorité parce que le royaume de Dieu, il est là. Parce que le Saint-Esprit, il est là. Parce qu'il y a des réalités qui viennent changer et bouleverser notre vie. Parce que Dieu est là. Et c'est pour ça que Paul leur dit, mais attendez, vu votre comportement, est-ce que vous savez que vous êtes... Est-ce que vous le savez vraiment? Est-ce que tu n'as pas besoin de te réveiller tous les matins en te rappelant que tu es le temple du Saint-Esprit? Le temple, c'est-à-dire le lieu, le temple, c'est le lieu où on adore, c'est le lieu où on loue, c'est ce Dieu-là. Et toi, tu es le temple. Ça se passe là. Tu es toujours en train de chercher. Moi, vous savez, moi, ma façon de faire, c'est quand j'arrive dans une église, je regarde les chants que l'on chante. Et je lui dis, mais on chante le contraire de ce qu'on croit. Viens Jésus. Pourquoi il n'est pas venu? On a une drôle de culture. Hein, ou alors on ne se souvient pas. Moi, hier soir, je sais que je sais. Et je me le rappelle. Et je dis, mon gars, t'as intérêt à pas oublier ça. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il m'est pas dit que si je suis devenu très spirituel, que c'est réservé à certains apôtres, à certains prophètes. Il n'est pas dit que c'est réservé à une certaine qualité de personnes parce qu'ils sont arrivés à quelque chose. Non. Si tu as cette intériorité-là, tu comprends que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et tu es venu pour révéler Christ. T'es mis à part pour ça. J'aime bien ce texte d'Hébreux. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Oh, vous savez, frère, il faut vraiment qu'on devienne pur et parfait. Et à un moment donné, nous pourrons accéder au salut et voir le Seigneur dans le ciel. Le seul problème, c'est que ça ne veut pas dire ça. Parce que ce texte ne nous parle pas du salut, il nous parle de la sanctification. Et la sanctification, c'est simplement se mettre à part. Il n'est pas question du salut ici. C'est si tu te mets à part, tu es à part. Alors tu prends conscience que Christ est en toi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et puisque Christ vit vraiment en moi, et que j'en suis conscient, et que j'agis, que je parle avec cette conviction-là, plus je suis conscient que Christ habite en moi, tous ceux qui sont autour de moi verront le Seigneur. Et sans la sanctification sans cette mise à part. Sans cette mise à part. Ils ne peuvent pas voir Jésus. Mais si tu te mets à part, si tu vis avec cette intériorité-là, tu sais, et si tu as besoin de te le rappeler, rappelle-toi, et si tu as besoin de te le répéter, répète-le-toi, mais moi, il y a des moments où j'ai besoin de me le répéter tous les jours. Radix. Christ, c'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Et parce que Christ vit en toi, tu vas révéler Christ. Et tu vas révéler Christ et les autres le verront. Mais si tu ne te mets pas à part, nul ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Vous me suivez ? C'est tellement important et essentiel de découvrir cette notion d'intériorité. C'est tellement important. C'est tellement important. Parce que c'est ça la base. Vous savez, moi j'aime quand Jésus parle avec la Samaritaine. Tu me demandes de l'eau à boire ? Attends, tu sais que si je te donne, moi, de l'eau à boire, ça va devenir une source jaillissante. Et moi, j'ai besoin de voir que ceux qui nous conduisent dans la louange et dans l'adoration, c'est une source jaillissante qui est là. C'est pas simplement des chants. Moi, j'en ai rien à faire. Si c'est pour des chants, mais moi, j'aime préférer écouter un concert à la télé. Ah, honnêtement, parce qu'il y en a qui chantent beaucoup mieux. Plus juste. Plus agréable à l'oreille. Une source. Une source. Ça sera en lui une source jaillissante. Parce que c'est en lui. Parce que tu sens cette source. Et qu'à un moment donné, tu sais que quand tu chantes, c'est la source qui jaillit. Quand tu joues, mais c'est ton instrument, et tout ton instrument et toi, c'est quelque chose qui jaillit. Est-ce que tu as fait cette expérience-là ? Cette expérience-là, à un moment donné, où tu es en train de louer et d'adorer Dieu, dans toutes sortes de créativité, mais il y a une source qui te dépasse. Il y a quelque chose qui est tellement fort. Mais c'est quoi ? C'est ce qui est à l'intérieur de toi. Et Jésus est en train encore de nous confirmer que ce que nous vivons, mais c'est là, va pas le chercher ailleurs. Vous savez, très souvent, on dit, Seigneur, viens. C'est saint Augustin qui dit quelque chose comme ça. Il dit, je t'ai cherché dehors, alors que tu étais dedans. Tu étais avec moi dedans, et je t'ai cherché dehors. Et que la chose essentielle, c'est pas d'aller chercher dehors, mais c'est de chercher dedans. Il est là. Ça, c'est quelque chose qui vient bouleverser ma vie chrétienne. C'est quelque chose qui vient changer ma façon de faire. Je vois plus les choses d'une autre façon que ça. Il est là. Christ vit en moi. Et je vais vous dire une chose, qu'à partir du moment où je me lève, j'ouvre les yeux, puis je pense à Christ qui est en moi, mais il y a une joie qui monte. Vous avez fait cette expérience ? Je me lève, je suis, où est-ce qu'il est mon café ? Puis tout d'un coup, je pense, Christ en moi. Rien que vous le dire là, rien que de vous le dire, Christ en moi. Mais c'est une réalité. Christ en moi. une joie. Ô Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vous savez, la maturité spirituelle dans laquelle Dieu veut nous mener, c'est d'arriver à être capable de se réjouir dans le Seigneur, même quand tout va mal. Parce que Christ est en nous. Parce que Christ est en nous. L'intériorité, c'est ce que nous... Tous les textes, je dis ceci, parce que ceux qui font la formation avec moi, j'en ai déjà parlé. Mais je le redis. La majeure partie des paraboles nous parle d'intériorité. Soulignez les paraboles quand il nous est dit ceux du dehors et ceux du dedans. Et je pose une question. Est-ce que vous connaissez la parabole qui explique toutes les paraboles? Et que si vous comprenez cette parabole, vous comprenez toutes les autres paraboles? Alors ceux qui font la formation avec moi, vous vous taisez, mais ceux qui ne font pas la formation avec moi, essayez de réfléchir avec moi. Vous connaissez cette parabole? C'est étonnant parce que le texte dit que si vous comprenez cette parabole, vous pourrez comprendre toutes les autres paraboles. Ça vous dit de comprendre toutes les paraboles? Alors, méditez sur la parabole du... Alors, moi, je ne l'appelle pas du semeur, parce que ce n'est pas vrai. Ça, c'est les éditorialistes qui ont mis du semeur, machin. C'est la parabole du semeur. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est un titre qui a été rajouté. Mais c'est la parabole du semé. Et la parabole du semé, elle nous parle de l'intériorité. Et si tu comprends bien cette parabole, parce qu'elle nous parle de l'intériorité, tu pourras comprendre toutes les... Dans le texte, c'est marqué, vous le relirez, on n'a pas le temps de relire, c'est quoi? C'est... Je n'aurai même plus la référence. Matthieu 5, non, c'est ça? Bon, peu importe, j'ai un trou là. Mais relisez, à la fin de la parabole, il dit, et Jésus dit, si tu comprends cette parabole, tu pourras comprendre toutes les autres. C'est quoi le semer? C'est la semence. C'est le verbe. C'est la parole. C'est ce que dit le texte. La parole. Si elle est semée en nous. Si, et je ne vais pas vous faire une prédication sur la parabole du semer. Vous la connaissez parfaitement. Mais ça se termine en disant, si elle est dans la bonne terre. Si elle est dans la bonne terre. Si elle est bien semée là, au bon endroit. Alors, là, ça va porter du fruit. Et parfois, on peut se dire, mais je suis sec. Bref, non, je ne peux pas expliquer. Non. Est-ce que c'est semé au bon endroit? Là, à l'intérieur? Là, à l'intérieur? Ça va porter du fruit tout seul. Ça va porter du fruit tout seul. Et tu pourras comprendre toutes les autres paraboles, parce que c'est... Et si, alors, si je devais reprendre cette parabole, c'est... Et Jésus dit dans cette parabole, plusieurs fois, il dit, écoutez, écoutez, écoutez. Écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. C'est-à-dire que Jésus est en train de nous dire, l'Évangile, arrêtez de l'expliquer, pratiquez-le. Pardon, parce que j'ai passé trop de temps, excusez-moi, pardon, pardonnez-moi, mais j'ai passé trop de temps à vouloir expliquer l'Évangile alors qu'il suffit surtout de dire pratique l'Évangile. L'Évangile doit se pratiquer beaucoup plus qu'on ne l'explique. Ouf. relisez la parabole du semeur. Quand j'ai compris que là, il s'agissait. Tout repose sur l'intelligence. Parce que les autres semences, ça tombe dans un truc de pierre, ça rentre pas. Ça tombe dans les ronces. Il n'y a pas d'intériorité. Mais quand on commence dans cette voie de l'intériorité, on laisse les choses venir là et se développer. Je disais tout à l'heure, si nous entrons dans l'intériorité, nous entrons dans les profondeurs de l'esprit. Parce que tu es le temple de l'esprit. Et que si tu sais que ton corps, c'est le temple de l'esprit, si tu sais que l'esprit est là, tu entres dans les profondeurs de l'esprit. Je voudrais juste lire ce texte, et puis on conclura, et je reprendrai tout à l'heure, mais dans Romains chapitre 11, verset 33. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ? Et là, une deuxième fois, je suis déstabilisé. On me dit, ah bon, bah, tu es déstabilisé quand même souvent. Hein. Plus je désire, je veux entrer dans ces profondeurs, plus je suis obligé de lâcher prise. Je suis obligé de lâcher prise. Parce que ce sont des choses que je ne peux pas comprendre, je ne peux même pas saisir, qui ne sont pas dans le domaine du naturel. Regardez simplement le texte. Tes jugements sont insondables. C'est-à-dire que les jugements, c'est les décisions. Toutes les décisions que tu prends, c'est insondable. Je peux pas le sonder. Je peux pas sonder tellement c'est profond, je peux pas atteindre. Bon. D'accord ? Bon, ben on est bien. Puis alors, tes voix sont incompréhensibles. Ah ben tiens. Ah ben là, tiens. Et c'est pour ça qu'il nous est parlé de profondeur. Parce qu'il n'y a pas de fond. Parce que la profondeur, je ne sais pas, juste, je vais terminer avec ça. Pour moi, la notion de la profondeur, c'est quelque chose qui, en même temps... Oui, c'est grand, c'est beau, mais en même temps, c'est quelque chose pour moi qui est terrifiant. Je ne sais pas si vous avez fait de la montagne. Moi, j'ai fait, il y a pas mal d'années, ça. J'ai fait ce qu'on appelle un 3000. Et quand vous faites un 3000 mètres, vous arrivez sur les crêtes, je dis bien sur les crêtes, et puis il y a de la neige. Et comme la crête, elle est là, vous marchez au sommet de la crête. Mais là, c'est profond. Et là aussi. Et alors, on s'attache avec une corde, les uns et les autres. On est 5-6, on s'attache avec une corde, et on te donne comme règle, si jamais celui qui est devant toi tombe sur ta droite, toi, tu plonges sur la gauche pour essayer d'équilibrer. Les gars, je ne sais pas si vous avez pensé qu'un jour, vous pouvez plonger dans une profondeur où il y a déjà 1500 mètres de profond, et vous dites, vous plongez, moi... Ça m'insécurise au maximum. Alors, on avait des cordes pour se sécuriser, mais moi, tu me dis ça, j'étais dans une insécurité totale. Profondeur. Ça vous arrive quand vous allez... Moi, je ne sais pas, je me suis baigné un jour en pleine mer, et tout d'un coup, je nage comme ça, puis tout d'un coup, je réalise que dessous, il y a 500 mètres. Je dis, bon, on va aller vers le bord, hein. Pourtant, je sais nager, mais rien que de penser qu'il y a 500 mètres de... Oh là ! Mais dès qu'on parle de... Et quand on parle de profondeur, ce sont des choses insondables. Ce sont les voix qui sont incompréhensibles. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je veux simplement dire que quand vous entrez dans cette intériorité-là, vous êtes obligé de lâcher prise. Vous ne dominez plus rien, vous ne maîtrisez plus rien parce que vous êtes dans les profondeurs de l'esprit. Et si vous n'êtes pas, et je vais simplement dire ça, mais je le dis très gentiment, si vous n'êtes pas déstabilisé de temps en temps dans la présence de Dieu, c'est que vous n'avez pas juste touché un tout petit peu à la profondeur de Dieu. Ça se rencontre nulle part ailleurs que dans le temple de l'esprit. Le temple de l'esprit. Je suis un homme soumis et je me tiens à l'horaire. Et donc on fait une pause.